Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les frontières comme bouclier face au SARS-CoV-2. Une nouvelle souche du virus inquiète Londres et avec elle la quasi-totalité de l'Europe. De nombreux pays dont la France stoppe les flux de passagers, les flux de marchandises depuis la Grande-Bretagne. Elle est comme pestiférée, mais la variante du virus ne s'est pas arrêtée aux frontières, vous l'entendrez.
Nouvelle rassurante toutefois, cette souche devrait être combattue par les vaccins proposés. Aujourd'hui, l'Agence européenne du médicament donne son avis sur le vaccin de Pfizer-BioNTech.
Le conseil municipal de Marseille doit débuter dans une demi-heure. A priori, les élus de la ville vont y nommer le socialiste Benoît Payan comme nouveau maire de Marseille. La fin d'une promesse de renouveau, nous dira Stéphane Robert.
Dans ce journal encore, nous irons aussi aux États-Unis où le Congrès vient de se mettre d'accord pour débloquer de nouvelles aides. 900 milliards de dollars directement dans les poches des Américains.
Le billet politique de Frédéric Seyss en cette fin de journal. Voyage en cette fin d'année, Frédéric Seyss, puisqu'avec lui, nous comprendrons les conséquences politiques de la crise sanitaire en Italie. Le Brexit n'est pas encore lancé que déjà l'Europe se coupe de la Grande-Bretagne. Une sorte de cordon sanitaire généré par la peur. Une nouvelle souche du SARS-CoV-2 a en effet été détectée ces derniers jours outre-Manche, à Londres et dans tout le sud-est du pays. Nouvelle souche hors de contrôle, disait hier le ministre britannique de la Santé. Résultat donc, un à un des pays coupent temporairement leurs liens avec Londres. Les Pays-Bas, l'Italie, l'Irlande, l'Allemagne, la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne et depuis cette nuit, depuis minuit, la France. Le gouvernement français interdit tout transport de passagers ou de marchandises. Il y a quelques minutes, Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes, s'en expliquait chez nos confrères de France Inter. Pas d'avion, pas de ferry ni de train en provenance de Grande-Bretagne et pour au moins 48 heures.
Alors c'est un délai d'urgence et de précaution. C'est 48 heures pour clarifier les informations scientifiques et faire la transparence, on le fera. C'est 48 heures pour coordonner encore mieux au niveau européen. Ce matin même, nous l'avons demandé, il y a une réunion à Bruxelles pour voir ce que nous faisons justement au-delà de ce délai. Et c'est 48 heures aussi parce que nous y pensons dès le début à nos ressortissants, à nos compatriotes qui sont au Royaume-Uni, qui voudraient, c'est légitime, pouvoir rentrer pour les fêtes. Et nous devons aussi chercher des solutions pour eux au-delà de ce blocage de 48 heures très strict.
Voilà, une barrière sanitaire comme rempart à un virus. La fermeture des frontières est un nouveau risque économique. Soulignons par exemple que 10 000 poids lourds transitent chaque jour à Douvres. Bonjour Johanna Hochstein.
Bonjour.
Vous suivez les affaires européennes pour France Culture depuis Bruxelles. Johanna, le virus, vous le soulignez, peut se jouer des frontières.
En effet, le ministre italien de la Santé a indiqué hier qu'un patient contaminé par la nouvelle souche a été identifié en Italie, à l'hôpital militaire de Rome. Un patient qui est rentré récemment du Royaume-Uni et qui a été placé à l'isolement. L'Agence européenne de contrôle des maladies a signalé quant à elle une poignée de cas de contamination à cette nouvelle variante dans d'autres pays en Europe, au Danemark, aux Pays-Bas et en Belgique. Une circulation en dehors du Royaume-Uni ne peut être exclue, indique l'agence dans une note d'évaluation des risques publiée hier. Il est donc demandé au gouvernement de renforcer les contrôles sanitaires. C'est précisément sur ce point que les ambassadeurs de l'UE vont se pencher ce matin pour tenter de définir une réponse européenne, alors que les États membres ont pris jusqu'ici des décisions en ordre dispersé. De son côté, le ministre allemand de la Santé s'est voulu rassurant. Compte tenu des informations dont nous disposons pour le moment, les vaccins restent tout aussi efficaces contre cette nouvelle souche, a-t-il affirmé.
Merci Johanna Hochstein depuis Bruxelles ce matin pour France Culture. Pour mieux comprendre ce que l'on sait déjà de cette nouvelle souche du SARS-CoV-2, n'hésitez pas à écouter la radiographie du coronavirus que proposait vendredi matin Nicolas Martin en podcast ou sur franceculture.fr. Alors Johanna Hochstein le disait à l'instant, cette nouvelle souche, bien que plus contagieuse, devrait être combattue par les vaccins qui sont actuellement proposés. Premier tournant à ce propos dans l'Union européenne aujourd'hui, l'Agence européenne du médicament doit examiner le vaccin de Pfizer et BioNTech. Je me tourne à présent vers vous, Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour.
L'EMA convoque son comité scientifique ce lundi. La réunion devrait théoriquement déboucher sur une autorisation de mise sur le marché du vaccin. Autorisation conditionnelle, Tara.
Oui, si l'autorisation est délivrée aujourd'hui. Elle vaudra pour un an seulement, mais, insistent beaucoup les Européens, elle sera vraiment proche d'une autorisation normale. Contrairement à l'Angleterre, aux USA, au Canada, en Europe, on a choisi de ne pas utiliser de procédure d'urgence. Alors bien sûr, des experts ont travaillé de façon accélérée, H24, avec un vrai roulement, mais en respectant les critères habituels. Alors, ce lundi, c'est le comité des médicaments à usage humain qui se retrouve. Chaque État membre y a nommé un expert pour 3 ans et ils vont décortiquer ensemble les 2 rapports rédigés en parallèle depuis plusieurs mois par 2 comités d'experts de l'agence. Ils ont travaillé ces 2 comités indépendamment sur le vaccin Pfizer. La demande officielle du labo date du 6 octobre et s'ils ont réussi à soumettre leur rapport aujourd'hui, c'est parce qu'ils étudient les données selon une rolling review, une révision permanente, sans attendre donc d'avoir le dossier complet.
Et bien sûr, Tara, on ne peut pas préjuger de la décision de l'Agence européenne du médicament, mais elle insiste beaucoup sur la transparence de sa procédure et sur la suite.
Oui, si le comité scientifique devait valider aujourd'hui le vaccin Pfizer, la balle serait dans le camp de la Commission européenne qui a promis une décision d'ici 2 jours, puis des États membres qui mèneront les campagnes de vaccination chacun de son côté. Avec les inquiétudes que l'on connaît, en France notamment, l'Agence européenne veut donc jouer la transparence. Elle publiera l'intégralité des rapports sur lesquels elle fonde sa décision d'aujourd'hui, mais seulement d'ici 2-3 jours, le temps, dit-elle, de les traduire. Et puis on aura accès aussi aux documents des laboratoires, mais un peu plus tard, car l'EMA, l'agence européenne, va en supprimer les données personnelles ou même commerciales qui seraient sensibles. En attendant, comme le dit sa directrice générale, l'Irlandaise Emer Cook, qui était auditionnée par les parlementaires européens à Strasbourg le 10 décembre, eh bien pour l'instant, les données sont prometteuses. Nous n'avons pas vu d'effets secondaires inquiétants dans les essais cliniques, y compris chez les personnes âgées avec des comorbidités. Suspense quand même encore jusqu'à la décision finale, sachant qu'il manque aussi les données sur les enfants, sur les femmes enceintes et que tout cela ne viendra que progressivement.
Merci Tara Schlegel. Comment donc passer d'une propriété privée à un bien commun pour ces vaccins? La discussion reprendra après ce journal avec vos invités, Guillaume.
Notamment l'économiste Pierre-Yves Geoffard, professeur à l'école d'économie de Paris, et la vaccinologue Marie-Paule Kieny. En attendant, à 8h07, c'est la suite de votre journal, Clara Lecoq-Réal, sur France Culture. Benoît Payan devrait devenir aujourd'hui le plus jeune maire de Marseille.
Oui, à 42 ans, celui qui était jusqu'ici premier adjoint est le successeur désigné de Michel Rubirola, qui avait démissionné la semaine dernière. Michel Rubirola se retire officiellement pour des raisons de santé, mais de nombreux observateurs y voient une manœuvre politique habilement orchestrée par celui qui s'apprête à prendre les commandes de la ville de Marseille. Benoît Payan, donc, devrait être élu maire ce matin dans un fauteuil, Stéphane Robert.
On ne voit pas ce qui pourrait empêcher Benoît Payan de devenir maire de Marseille. Mathématiquement, les jeux sont faits. Le printemps marseillais compte dans ses rangs 44 conseillers municipaux, auxquels il faut ajouter les 9 élus qu'apporte la maire du 8e secteur, Samia Ghali. Benoît Payan devrait donc pouvoir compter sur au minimum 53 votes en sa faveur, au-delà donc de la majorité requise de 51 élus sur 101. La droite, avec 37 élus, avait potentiellement les moyens de lui faire barrage en démissionnant d'un coup d'un seul. Il suffit qu'un tiers du conseil municipal démissionne pour déclencher une nouvelle élection. Mais comme dans ce cas, on ne sait jamais vraiment ce qui peut arriver, personne n'était tout à fait sûr d'être réélu. Cette option a très vite été écartée. Benoît Payan devrait donc à coup sûr s'emparer du poste dont il a toujours rêvé. Pour beaucoup de Marseillais, c'est la fin d'une promesse de renouveau que portait Michel Rubirola et qui aura duré 2 saisons à peine. Au printemps a succédé l'automne et puis l'hiver. Au dire de nombreux observateurs sur place, Benoît Payan est un homme politiquement habile qui a su manœuvrer. Et cette affaire montre que la cité phocéenne continue d'être minée par les tambouilles politiciennes.
Le conseil municipal à Marseille doit débuter dans une demi-heure, un peu moins, à 8h30 tout à l'heure. Les doléances de la culture devant le Conseil d'État ce lundi. Il doit examiner ce matin les recours formulés par le monde du cinéma, du théâtre, de la musique ou du cirque. Et ce, après les fermetures forcées des lieux culturels, confinés par le gouvernement français au moins jusqu'au 7 janvier. Les juges administratifs se réunissent à 9h et ils auront ensuite 48 heures pour se prononcer. À cette occasion, une tribune est diffusée ce matin. Plus de 300 comédiens, comédiennes, metteurs en scène, humoristes, responsables de théâtre ou de festival appellent à sauver la culture et ses acteurs. Aux États-Unis, il ne manque plus qu'un vote prévu aujourd'hui pour valider le deuxième plan de relance face au Covid-19. Après plusieurs mois de négociations, les démocrates et les républicains du Congrès ont enfin trouvé une position commune. Près de 900 milliards de dollars devraient être débloqués. De l'argent pour une vaccination équitable dans le pays et surtout pour les habitants dans leur poche directement. Cela avait déjà été le cas au printemps dernier, Grégory Phillips.
À la mi-avril, des millions d'Américains avaient reçu un chèque de 1 200 $ signé Donald Trump, un virement ou une carte de crédit du même montant. Dans les prochaines semaines, ceux qui ont des revenus inférieurs à 99 000 $ par an, soit environ 9 Américains sur 10, recevront un nouveau chèque de 600 $, 1 200 par couple, 2 400 pour une famille avec deux enfants. Cette aide est un premier pas, a commenté hier soir la démocrate Nancy Pelosi, qui préside la Chambre des représentants, mais il faut faire, dit-elle, beaucoup plus pour aider les Américains. Le plan bipartisan prévoit aussi une aide de 300 $ par semaine pour ceux qui ont perdu leur emploi jusqu'à la fin mars. Enfin, un tiers de ce plan d'aide sera dédié aux petites entreprises car l'économie américaine redémarre mais trop lentement. Ces deux dernières semaines, le taux de chômage est reparti à la hausse. Il avoisine désormais les 7% au lieu de 3,5% avant l'épidémie. Au 31 décembre, enfin, des millions de locataires américains incapables de payer leur loyer risquent l'expulsion.
Grégory Phillips depuis Washington pour France Culture. C'est maintenant en Corée que nous emmène l'actualité, décidément toujours liée au Covid-19. La Corée du Sud comptabilise une forte hausse des cas de contamination, près de 2000 rien qu'hier, c'est beaucoup pour un pays qui avait au printemps dernier été pris en exemple pour sa gestion de la crise sanitaire. Le gouvernement sud-coréen change donc sa stratégie. L'idée n'est plus de tracer les cas contacts comme au printemps dernier, mais d'augmenter les dépistages. C'est un reportage à Séoul de Nicolas Roca.
Je m'appelle Chong Shin-hee et je suis venu me faire tester parce que le patron de mon père est positif au Covid.
Ni cas contact, ni symptomatique. Il y a encore une semaine, ce jeune garçon de 7 ans n'aurait pu être testé dans l'un des 150 nouveaux centres de dépistage de Séoul, devant celui de l'arrondissement d'Opyong. Un employé municipal distribue des gants en plastique aux habitants venus se faire tester.
Maintenant, il y a tellement de cas asymptomatiques qu'il est vraiment nécessaire de tester une grande partie de la population.
Pour inciter la population à se déplacer dans le froid glacial de Séoul, les autorités ont rendu ces tests gratuits et anonymes, mais il a aussi fallu mobiliser plus largement.
Oui, il y a 3 personnes de l'armée qui sont arrivées pour nous aider. Il y a même un haut gradé dans ce centre. Ils sont venus pour désinfecter et garder le centre de dépistage propre.
Près de 1500 militaires et de nombreux policiers sont venus renforcer les équipes sanitaires dans des centres de dépistage ou afin d'aider au traçage des cas contacts.
Terminons ce journal avec un phénomène qui littéralement pourrait faire des envieux en cette période de distanciation physique. Le baiser de Noël. C'est en réalité le rapprochement de deux planètes, Saturne et Jupiter, ce soir, si proches qu'elles sembleront, vu de la Terre, s'embrasser. Cela se produit tous les 20 ans seulement. Explication de Léa Gritton. Elle est chercheuse à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie à Toulouse.
On sait que les planètes bougent au cours du mois, de l'année, par rapport aux étoiles. Et donc, de temps en temps, il y a ce qu'on appelle des conjonctions. Et donc, c'est des moments où deux planètes se rapprochent, deux ou trois hein, d'ailleurs, mais se rapprochent particulièrement proches dans le ciel. Et ce phénomène pour Jupiter et Saturne, qui sont les deux plus grosses planètes du système solaire, il se passe tous les 20 ans. Sauf que ce qui est exceptionnel cette année, c'est que le rapprochement, il est plus ou moins intense, en fait, entre les deux planètes. Et cette année, il va être extrêmement proche. Et c'est ça qui est très très rare, et donc ce qui est assez fascinant, c'est que par exemple, même avec des bonnes jumelles, on n'a même pas besoin d'un télescope ou de lunettes, avec des bonnes jumelles, on va pouvoir voir les deux dans le champ de vue des jumelles, alors que d'habitude, on les voit séparées en fait. Et donc, c'est assez émouvant en tant qu'observateur, parce que quand on regarde des planètes comme ça dans les jumelles, mais qu'on n'en voit qu'une dans le champ de vue, c'est émouvant en soi, mais bon, ça, on se dit, bon, c'est un petit point. Alors que là, le fait qu'elles vont être aussi proches, je trouve que ça donne encore plus de perspective à ce qu'on observe, en fait. On se dit, bah, dans la vraie vie, c'est des planètes qui sont extrêmement lointaines de nous, qui sont immenses, et là, le fait de les voir aussi proches dans le ciel, c'est assez émouvant.
Des propos recueillis par Maïwenn Bordron, qui vous propose d'ailleurs un article internet sur tous ces phénomènes astronomiques que l'on peut vulgariser de ce baiser de Noël, donc ce soir, jusqu'à la rivière Noire ou la lune de sang. C'est sur franceculture.fr. Le temps vu de la Terre encore ce lundi. La journée s'annonce pluvieuse sur une grande partie de la France métropolitaine, des pluies du Pays Basque jusqu'à la Lorraine. Seul le sud-est restera au sec. Comptez ce matin 8 degrés à Lille, 9 à Paris et Lyon, 12 degrés à Brest et à Marseille, Guillaume.
Mais vous savez, même s'il y a le baiser de Noël, il y a aussi le baiser des auditeurs. J'ai sous les yeux une carte de Bernard Enada qui nous souhaite, toute l'équipe, des matins, eh bien, une bonne année. Vous voyez, Clara Lecoq Réal. Alors, ce sont les vacances de Noël, donc ce sont un peu les matins de Noël. Ouais. Géraldine Mosna-Savoie et Hervé Gardette sont en vacances, mais dans 30 minutes environ, vous aurez droit à Sandrine Trainer, la directrice de France Culture, vous dévoilera le programme de Noël de France Culture. Michel Guérin du Monde nous donnera son point de vue sur la colère des milieux culturels, parce que toute la semaine, nous retrouverons un acteur du secteur culturel qui nous donnera son sentiment et son analyse sur ce qui est aujourd'hui en cours dans le milieu culturel avec la crise du Covid, bien sûr. Et puis vous retrouverez Arnaud Laporte qui, lui, est fidèle au poste. On va évoquer les vaccins bien publics, en compagnie d'un économiste, Pierre-Yves Geoffard, d'une vaccinologue, Marie-Paul Kieny, et d'Olivier Maguet, qui est responsable de la mission prix du médicament un médecin du monde. Et puis il y aura un billet politique dans quelques instants avec Frédéric Seize.